VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Il est 11h à Ouagadougou, midi à Libreville. Bienvenue à notre journal. Le Tchad dit que son aviation a bombardé hier 6 camps des militants islamistes de Boko Haram au Nigeria en représailles après le double attentat sanglant de lundi à N'Djamena. Par ailleurs, le premier ministre tchadien, Kazebe Payimidebe, a annoncé un certain nombre de mesures pour raisons de sécurité, notamment l'interdiction du port de la burqa et du niqab qui cachent intégralement le visage. Au micro de Timothée Donangmaï, la réaction d'Abdel Daïm Abdoulaye, secrétaire général du Haut Conseil des Affaires Islamiques du Tchad.
Ce niqab, c'est une civilisation qui est importée et qui n'a même pas mis plus de 20 ans dans ce pays, que les femmes musulmanes au Tchad ne savaient pas ce burqa avant. C'est une idéologie nouvelle dans certains pays arabes du Golfe qui portent ça. Et c'est pas avec ce niqab que la personne sera musulmane. Parce que les gens confondent entre le hijab et le burqa.
Quelle est la différence?
Recommander hijab, cela veut dire la couverture d'une femme. Elle couvre tout ce qui est la partie entière de la femme. Ça s'appelle aura. Sauf le visage et les mains. Ça, c'est dit dans la doctrine malikite, la doctrine chafiite, la doctrine aussi hanafite. Sauf dans la doctrine hanbalite qui est propagée un peu au pays des Golfes, et surtout en Arabie Saoudite, au Koweït, que ces doctrines disent que la femme couvre même le visage. Ce sont des doctrines importées dans notre pays, et ça nous a créé des problèmes. À travers ce bouquin, les gens font partir faire la prostitution, les filles et les femmes. Et parfois, même les hommes se couvrent avec ces burqas pour être une femme et rentrer chez les femmes pour faire la prostitution.
Les autorités ont interdit la burqa et le niqab. Alors, quelles sont les réactions?
Oui, ce qu'ils portent, ça les plaît pas. Mais nous, en tant que leaders religieux au Tchad, on a fait des émissions depuis 2010-13 jusqu'à nos jours que le niqab n'est pas exigé dans beaucoup de doctrines musulmanes. Et ceux qui portent disent que c'est exigé. Nous, on dit non. Nous saluons cette décision, comme je dis.
Les musulmans tchadiens entament le ramadan peu après ce double attentat à N'Djamena. Quel est le sentiment de la communauté aujourd'hui?
C'est le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces groupes de gens qui sont appelés les ennemis de l'humanité tout entière, qui font des choses qui n'ont pas liées à une religion. Et nous, on prie Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver et aussi de nous donner la sécurité totale de notre pays et en Afrique et dans l'humanité tout entière.
Abdel Daïm Abdoulaye, secrétaire général du Haut Conseil des Affaires Islamiques du Tchad à N'Djamena. En RDC, nouvelle condamnation à Lubumbashi pour les adeptes de la secte de Paul Mukungubila, accusé de subversion contre le gouvernement. Des peines allant jusqu'à 20 ans de prison après celles prononcées contre 30 autres membres du groupe la semaine dernière à Kalemie, toujours dans la province du Katanga. La réaction de Sylvain Lumou, coordonnateur du collectif de la défense de la secte, au micro d'Eddy Isango.
Tout cela s'est passé au cours d'une procédure expéditive avec la détermination des condamnés et des innocents. Les adeptes de Paul-Joseph Mukungubila étaient en train de prier en lieu de prière aux différentes résidences et ils ont été attaqués parce que l'on croyait que le prophète était présent. Il était déjà en dehors de la ville de Lubumbashi. Et c'est d'ailleurs cela qui a entraîné que ceux de Kinshasa ayant pris les attaques qui ont eu lieu aux résidences du prophète, ils ont dû initier une marche qui a été également réprimée dans le sang. Et à Kinshasa, nous avons relevé l'incompétence du tribunal de garnison à connaître des faits commis par des civils. La procédure a été arrêtée parce que le tribunal devrait sursoir pour soumettre cette question à la Cour constitutionnelle.
Vous parlez d'une procédure expéditive alors que les adeptes de M. Mukungubila ont été arrêtés depuis 2013.
Depuis 2013, ceux des colosiers de Lubumbashi étaient gardés à la prison de la Kasapa. Il n'y avait aucun devoir procédural commis pendant tout ce temps. Le procès n'a été ouvert qu'il y a 2 mois de cela pratiquement. À Kinshasa, c'est la même chose. Ils sont restés pendant 9 mois au moins au secret dans les différents cachots de l'ANR. puis transféré à la prison militaire d'Ndolo. Il y a seulement un mois que le procès a commencé formellement. Il n'y a aucun procès verbal qui établit que les adeptes de Mukungubila avaient les armes à main, qu'ils auraient acheté je ne sais pas où, pour initier des actes subversifs. Comment est-ce que vous pouvez mettre sur les dos de ces personnes la propriété de certaines armes qui, du reste, sont connues? Il y en a quelques-unes que l'on avait retrouvées dans d'autres procédures. Et donc, on comprend que le mode opératoire demeure le même. On prend des armes ici, on fomente des faits.
À Kinshasa, les adeptes se sont introduits à la chaîne nationale. Ils ont pris en otage des journalistes qu'ils ont obligés de proclamer la victoire de M. Mukungubila aux élections de 2011.
Il y a l'ONG des électeurs qui a publié un rapport dans lequel il est repris même la version officielle des services de sécurité où les services ne reconnaissent pas avoir vu ces gens avec des armes, même des armes contondantes qui pouvaient couper ou égorger.
Maître Sylvain Lumu, avocat de la secte de Paul Mukungubila.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Cap sur le Burundi, où notre envoyé spécial Bagassi Koura se penche aujourd'hui sur la participation burundaise au Yali 2015, le programme du président américain Barack Obama pour la formation des jeunes leaders africains. Programme qui commence dans quelques jours aux États-Unis. 500 jeunes Africains, dont 7 Burundais, vont bénéficier de stages et de formations dans des universités et des entreprises américaines dans le cadre de ce programme qui en est à sa deuxième année. Bagassi Koura s'est entretenu avec Mireille Kayeye, 27 ans, une des heureuses élues qui s'apprête à partir pour les États-Unis.
Je suis très ravie, je me réjouis en fait de faire partie de ces 7 qui vont partir aux États-Unis. Je serai basée à l'Université de Virginie pour le track de Civic Leadership et j'ai hâte de rencontrer les autres jeunes qui vont y être. J'ai hâte de faire des connaissances, j'ai hâte d'apprendre surtout parce que je me dis que notre pays a besoin de leaders et je suis prête à devenir un grand leader ici dans mon pays quand je serai de retour.
Vous allez avoir la chance de croiser le président Barack Obama. Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire ?
Oui, la dernière semaine du fellowship, c'est-à-dire au début du mois d'août, nous allons être dans un sommet avec Obama, c'est-à-dire on va rencontrer Michel et Barack. Et ce que je lui demanderais d'abord, ce serait de faire un tour au Burundi. Je pense qu'on a besoin de lui. Et je vais aussi lui poser une ou deux autres questions concernant comment est-ce que l'Afrique pourrait briller comme il faut en fait. Parce qu'il nous tarde à le faire.
Comment se porte la jeunesse burundaise à votre avis?
C'est une jeunesse qui est très déçue. C'est une jeunesse amère maintenant parce que d'abord, il y a un grand taux de chômage, il y a un problème d'université, nous n'avons pas de professeurs, on n'a pas de travail même si on en cherche, on est pauvre, on mendie, on n'a pas de stage, on n'a pas accès à la possibilité d'apprendre, on n'a pas d'opportunité. Donc c'est une jeunesse fatiguée. Et c'est une jeunesse qui voudrait que les choses changent. Et pour que les choses puissent changer, il faut absolument que la jeunesse se batte. C'est-à-dire à travers les associations, à travers la recherche d'opportunités. Il faut que la jeunesse apprenne à apprendre d'elle-même maintenant. Parce qu'on a vu que notre société ne nous soutient pas très facilement. C'est difficile. Et quand il y a des conflits, la jeunesse est utilisée. Par exemple, récemment dans les manifestations. Donc, on a un problème de leadership. On a besoin d'avoir des leaders. Mais en même temps, on a besoin de nous forger nous-mêmes en tant que leaders. Comme ça, ce sera facile.
Mireille Kayeye, une Burundaise sélectionnée cette année pour l'édition 2015 du Yali, le programme du président Barack Obama pour la formation des jeunes leaders africains. En Mauritanie, 5 à 10 ans de prison, telles ont été les peines infligées à 3 Mauritaniens arrêtés en octobre pour lien présumé avec le groupe terroriste État islamique. C'est ce qu'annonce l'AFP, des précisions avec Georges Léonard Sagno.
Les condamnations ont été prononcées mardi soir par un tribunal de Nouakchott. Les hommes comparaissent pour appartenance à une organisation terroriste et détention de matériel de propagande terroriste. Tous les trois ont plaidé non coupables. Durant l'audience, le procureur a fait visionner une vidéo dans laquelle il prêtait allégeance au groupe État islamique. Les inculpés ont été arrêtés en octobre 2014 à Zouaret, dans le nord du pays.
Et pour terminer ici, aux États-Unis, 9 morts et plusieurs blessés. Tel est le bilan de l'attaque d'une église de la communauté noire de Charleston, en Caroline du Sud, par un tireur blanc hier soir. L'assaillant est en fuite et traqué par la police. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com et notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.